6h03, jeudi 7 novembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, des journées grises qui s'annoncent, on va regarder le détail pour aujourd'hui, ce matin. Selon l'endroit où vous êtes, c'est un petit peu de pluie ou encore de neige fondante. C'est autour de 1 degré et on prévoit que cette neige fondante, ça va durer toute la journée. Il n'y a pas, je le rappelle, d'accumulation. C'est un maximum de 3 degrés. Mais ce n'est qu'en soirée que les averses de neige devraient cesser. Ça demeure nuageux et c'est assez froid pour la nuit prochaine, un minimum de moins 6. Demain, vendredi, soleil nuage avec un maximum de moins 1 le jour et même en après-midi, on prévoit que ça va descendre aux environs de moins 7 degrés. Et finalement, pour le week-end, dans les deux cas, samedi nuageux, 40 % de probabilité d'averse de pluie ou encore de neige, avec un maximum de 3 degrés, dans la nuit de la neige intermittente. Et dimanche, c'est autour de 6 degrés, mais ça pourrait être moins, ce qui fait qu'on oscille entre la neige intermittente et la pluie. Ce matin, il y a deux histoires extrêmement touchantes qui marquent l'actualité. D'abord, l'histoire de François Boucher et Francine Messier, qui ont vécu ensemble pendant pratiquement 50 ans. Leur histoire est racontée dans plusieurs médias. M. Boucher était chirurgien à la Cité de la Santé de Laval. Sa femme était enseignante. Et les deux étaient porteurs d'une maladie génétique rénale très rare. C'est vraiment là inhabituel. Et ils ont décidé de vivre ensemble, de se marier et d'avoir une vie agréable. Dans les deux cas, ils ont subi une greffe du rein. Dans le cas de Mme Messier, c'est au début des années 90. La greffe a duré pendant 20 ans, dit-on. Et par la suite, son conjoint également a eu une greffe. Et malheureusement, il a perdu ce qu'on appelle le greffon en 2015. Donc, les deux se sont retrouvés en dialyse. Et puis, ils ont décidé d'arrêter parce que d'autres problèmes de santé se sentaient donc vieillissants. Et c'est leur fils qui témoigne. Il s'appelle Jean-François Boucher. Et il raconte, entre autres, dans la presse ce matin qu'il était au travail il y a deux semaines quand son père l'a appelé pour lui dire qu'on aimerait, nous, tes parents, te voir en fin de journée. Et leur décision était prise, c'est-à-dire de renoncer au traitement et de faire une demande d'aide médicale à mourir. Donc, pas de dialyse. La mort, ils ont en vue. Et les deux voulaient mourir, partir en même temps, ce qui leur a été accordé. Et il raconte évidemment comment ça s'est passé. La raison pour laquelle il témoigne, dit-il, c'est pour rappeler l'importance du don d'organes. On en parle beaucoup. Et on sait qu'au Parti libéral, le député Fortin a proposé d'avoir une espèce de changement de politique qui ferait en sorte que, automatiquement, vous donnez vos organes, si vous ne voulez pas, c'est à vous de le dire, plutôt que le phénomène inverse, de cocher si vous êtes intéressé. Et on a eu tout un débat sur le don d'organes, il n'y a pas si longtemps, avec la mise en veilleuse de l'unité spécialisée à l'hôpital Sacré-Cœur. Je ne sais pas trop si ça évolue. Est-ce qu'il y a eu une entente avec les médecins? C'est une chicane pour... pas grand-chose, à part des égos de docteurs puis de la bureaucratie qui se sont coltaillés dans ça. Alors, donc, l'aide médicale à mourir, bien sûr, mais aussi le don d'organes. L'autre histoire, et c'est une histoire qui nous rappelle celle de cette Vietnamienne, mère de famille, Mme Duong, qui avait subi une greffe de cellules souches pour combattre une leucémie, parce qu'elle aussi, à l'époque, était en recherche d'un donneur compatible. Et elle avait invité les membres de la communauté vietnamienne à s'inscrire au registre des donneurs de souches. Dans le cas de Mme Jessica Soto Fernandez, c'est une femme de 50 ans, originaire du Chili, et qui souffre d'un cancer lymphatique. Donc, au mois de juin, elle reçoit son diagnostic. Elle a eu des traitements de chimio. Et là, on lui dit qu'elle va devoir recevoir une greffe de cellules souches. Sauf que, ça ne sera pas suffisant d'utiliser ses propres cellules. Il faut trouver rapidement un autre donneur de cellules souches compatible avec elle. Alors, comme on le fait dans tous ces cas, on a regardé autour d'elle, ses proches. Il n'y a personne de compatible. Il n'y a personne dans les banques de cellules d'EMA Québec ou dans la Banque internationale. Et il y a une certaine urgence, si vous voulez, à lui trouver un donneur. Elle demande aux gens de la communauté latino-américaine de passer un simple test d'Emma Québec pour voir si vous seriez compatible avec elle, ce qui pourrait donc lui sauver la vie. Sa tante, Mme Flora Fernandez, sera avec nous ce matin. Alors, deux dossiers qui nous ramènent les pieds sur terre, je trouve. Et de voir ces gens-là, je repense encore là, à ce couple. Semble-t-il qu'ils étaient très sereins le jour où ils avaient déterminé que c'était le moment de partir et de partir ensemble. Dans les autres nouvelles, on revient sur le dossier des étudiants étrangers. Bon, François Legault a fait son mea culpa. Il faut au moins reconnaître quelque chose. Quand la CAQ fait des erreurs, les correctifs, normalement, viennent assez vite. On aurait pu s'entêter encore pendant un bout de temps, même si ça ne tenait pas la route. Il faut reconnaître ça. Deuxièmement, j'espère que personne croit la version de Simon Jolin-Barrette quand il prétend qu'il a pris la décision et qu'il en a informé le premier ministre. Oubliez ça, là. Là, M. Legault a abrié l'affaire en disant « on s'est parlé et on a décidé que, là ». Mais si vous croyez vraiment qu'un ministre prend une décision et qu'il avise le premier ministre, c'est plutôt le phénomène inverse. Alors, donc, droit acquis pour les gens qui sont déjà ici, qui sont déjà aux études. Là où j'ai de sérieux doutes, c'est la fameuse liste pour les étudiants à venir. On est supposé avoir une liste avec une mise à jour à tous les ans des secteurs où on a besoin de main-d'œuvre, parce que ça change. Et depuis hier, puis même avant-hier, les exemples se multiplient à travers le Québec de secteurs d'études où supposément il n'y a pas pénurie de main-d'œuvre ou besoin de main-d'œuvre, alors que les gens du milieu, là, qui sont les deux pieds sur le terrain, disent « ben voyons donc ». Je vous donnais hier l'exemple, dessin de bâtiments. D'autres qui posent également des problèmes de rareté de main-d'œuvre, d'autres secteurs, là, comme la foresterie. Je ne suis pas certain, moi, de deux choses. Que la liste, il n'y a pas des trous dedans ou quelques aberrations. Deuxièmement, on me dit que le système ARIMA connaît des ratés. Le principe d'arrimer l'immigration et la main-d'œuvre qui avait été créé sous les libéraux. Beaucoup de gens ont des doutes sur la performance de cette plateforme. Alors, on comprend tous l'intention du gouvernement qui est de dire « Ayons au Québec des immigrants qui vont pouvoir rapidement s'intégrer au marché du travail. » Mais je le répète, puis hier, on a un auditeur pendant la tribune qui a appelé, qui est venu ici, en provenance du Sénégal, qui a fait des études en marketing. Il n'a pas trouvé d'emploi, mais il a trouvé un bon travail chez Bell. Est devenu technicien puis a eu sa formation donnée chez Bell. Ça montre quoi? Ça montre que tu viens étudier quelque chose, et c'est vrai pour les étudiants étrangers comme c'est vrai pour les étudiants locaux, là. Ça ne veut pas dire, un, que tu vas te trouver un travail dans ton champ d'études, puis surtout, ça ne veut pas dire que tu vas passer ta vie là-dedans. Et la nouvelle génération est appelée à changer d'emploi encore plus souvent que leurs parents. Alors, tu sais, c'est un peu tout croche, leur politique sur l'immigration. Et l'idée de servir en français seulement les immigrants, les nouveaux arrivants, alors que certains viennent de débarquer, parlent pas la langue, tu sais, c'est un peu inutile. Parce que comment ces gens-là vont se débrouiller dans leurs premiers mois ici, premières années même, avec les services gouvernementaux. Puis je le rappelle, puis pourtant, ça devrait être tellement clair, la francisation fonctionne un peu avec la première génération, mais elle fonctionne vraiment avec la deuxième. Parce que là, l'école française est obligatoire, l'école, donc, jusqu'à la fin du secondaire, et les jeunes, peu importe pays d'origine de leurs parents, parle le français. Je ne dis pas qu'ils vivent en français, je dis qu'ils parlent le français. On va aller retrouver Marc. C'était un matin assez difficile quand même. Là. Merci beaucoup. Revenons sur les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la Commission Laurent. Et hier, il y a eu des groupes qui sont intervenus, qui représentent des maisons d'hébergement pour des femmes violentées, des femmes victimes de violences conjugales. Et d'entrée de jeu, même le gouvernement le reconnaît, il y a un manque de financement, ce qui veut dire un manque de place pour des femmes qui ont besoin d'un refuge pour échapper à la violence dont elles sont victimes et dans bien des cas, dont leurs enfants aussi sont victimes. Et selon des chiffres, il y aurait 10 000 signalements à la DPJ reliés à de la violence conjugale. Je vais juste mettre un bémol. Bien sûr, il y a des enfants qui voient un conjoint, une mère, par exemple, être battu. Il y a des enfants qui sont témoins de la violence au sein d'un couple et bien souvent des coups portés par le conjoint et par le père. Et un enfant n'est pas indifférent quand il voit un parent comme ça être malmené, que ce soit physiquement ou verbalement. Alors oui, c'est un traumatisme qui est reconnu, puis oui, ça peut faire l'objet d'un signalement à la DPJ. Deuxièmement, malheureusement, il y a beaucoup d'ex-conjoints, quand ils sont en litige, en procédure de séparation, qui utilisent l'enfant ou les enfants comme objet de chantage. Si j'avais gardé tous les courriels que j'ai reçus de gens qui me racontent des histoires concernant l'ex, puis le signalement à la DPJ, combien de courriels j'ai reçus d'intervenants de la DPJ qui me disent « Monsieur Arcan, vous ne savez pas dans quel nombre de dossiers on se retrouve. » Puis là, c'est un qui accuse l'autre, puis c'est le nouveau conjoint qui fait des attouchements peut-être, puis c'est l'aliénation parentale, puis on chicane. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des cas vrais. Je vous dis qu'il y a des adultes dans des périodes de confrontation puis de chicane qui utilisent la DPJ pour essayer de nuire à l'autre. Alors que tu devrais tout faire pour protéger tes enfants, leur épargner d'autres traumatismes après une séparation, bien, il y en a qui sont pas capables. Il y en a qui se disent, bien, va te signaler à DPJ. Ça devient comme une arme dans le cadre d'une séparation. Également, on voit ce matin qu'il n'est pas question d'avoir de vapoteuse de cannabis pour ce qui est du marché québécois. Donc, ça ne sera pas en vente dans les succursales de la Société québécoise du cannabis, à moins d'un changement. La presse dit ce matin que ces cigarettes électroniques au THC, comme les produits comestibles qui s'apparentent à des desserts ou qui sont attrayants pour les enfants, seront interdits dans les succursales de la Société d'État. Maintenant, il n'y aura pas non plus de produits comestibles au cannabis avant la fin de l'année. On avait parlé de ça à un moment donné. Tout indique que ça va aller à plus tard et que finalement, pas avant le début de 2020 pour ces produits-là. Et Le Soleil qui rapporte ce matin une enquête sur un cas possible de maladie pulmonaire liée au vapotage. La personne serait une femme dans la trentaine de la région de Montréal qui a été admise au Centre hospitalier universitaire Laval la semaine dernière avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il y a deux cas confirmés jusqu'à maintenant de maladies pulmonaires liées au vapotage. Il s'agit de personnes âgées dans la cinquantaine et dans la soixantaine qui avaient commencé à vapoter pour évidemment arrêter de fumer comme tel. Et des cas qui ont été déclarés au mois de septembre et au mois d'octobre. Et c'est pas nécessairement le vapotage, mais des produits dérivés qu'on utilise en vapotant qui seraient probablement à l'origine de tous ces problèmes de santé. Le compte de taxes du Centre Bell, ça, c'est une histoire intéressante. Faisons un résumé, là. Le Centre Bell a été construit avec des fonds privés, contrairement aux autres amphithéâtres de sport, stades, qui, à chaque fois, impliquent beaucoup d'investissements publics. Dans le cas du Centre Bell, je m'en souviens très bien, Ronald Coré était le président, puis il n'avait pas demandé une scène à la ville, au gouvernement, il dit, c'est Molson qui paye. Et il y avait eu contestation du compte de taxes. À un moment donné, on avait évalué l'immeuble à 276 millions. Ce qui faisait un compte de taxes de pas loin de 11 millions. Et c'est vrai que c'est pas facile d'évaluer une bâtisse comme le Centre Bell. C'est un modèle assez unique. Et la direction du Canadien a contesté en disant « Écoutez, ça n'a pas de bon sens. » Là, on apprend que l'évaluation du Centre Bell est passée de 276 millions à 167 millions. Ce qui fait que le compte de taxes devrait baisser d'à peu près 4 millions par rapport à ce qu'on payait il y a 6 ans. Et donc, c'est une réduction importante pour 2020. Et là, vous imaginez, vous êtes propriétaire. Là. Le budget de la Ville de Montréal s'en vient. Là. Vous savez que votre compte de taxes va augmenter. Vous regardez l'augmentation de la valeur de votre propriété. Puis vous vous dites, mais comment ça se fait que le Centre Bell, qui a été rénové en passant, là, il y a eu quand même pas mal de travaux à l'intérieur, d'amélioration, comme on dit, locative. Comment t'expliques que la valeur du Centre Bell baisse à ce point? Je sais, il y a eu des représentations. Là, on n'a pas de version autre pour l'instant, mais c'est clair que le compte de taxes va baisser, alors que votre compte de taxes, lui, va augmenter. Est-ce que c'est une meilleure évaluation? Est-ce que c'est plus juste? Je ne le sais pas, mais dans De Gazette, vous allez retrouver les détails ce matin. Gilbert Rozon renonce à son enquête préliminaire et ira directement avec un procès devant juge seul. Et c'est un choix stratégique, semble-t-il. Alors voilà pour la décision. On sait qu'Éric Salvaille a décidé d'aller devant un juge également. C'est pas clair dans le cas de Rozon, c'est pas final, là, puis il a le droit de changer d'idée pour aller devant un jury, mais tout indique qu'il va prendre le même chemin que Éric Salvaille. Vous vous souvenez aussi de ces chiens qui avaient attaqué une joggeuse à Patton? Eh bien, finalement, le propriétaire des trois chiens a été accusé de négligence criminelle. Juste un mot aussi sur le procès des anciens boss de SNC-Lavalin. Avez-vous remarqué que dans les témoignages, on apprend que Jacques Lamarre aurait, semble-t-il, lui-même approuvé le paiement de pots de vin dans les activités en Libye, notamment l'achat d'un yacht pour le fils Kadhafi. Le fils était allé magasiner, puis il avait dit aux gens de SNC-Lavalin, « Je prendrais ça, moi, un yacht. » Et c'est remonté jusqu'à M. Lamarre, qui s'est toujours défendu, évidemment, à chaque fois que le vent brassait SNC-Lavalin, en disant qu'il n'était pas au courant de ça, qu'il était outré. Alors, est-ce que les témoins mentent? Toujours possible. Ou est-ce que c'est vrai que M. Lamarre a donné les directives pour que ça se fasse dans ce dossier de SNC-Lavalin? Parlons aussi de la commission English Montreal, commission scolaire. On peut dire que Jean-François Roberge a décidé hier de les assommer. Il se lève en disant, voici, la tutelle est imposée. Puis en passant, j'appelle l'UPAC pour que l'UPAC aille fouiller vos affaires. Je transmets à l'UPAC les documents des enquêtes internes qui montrent qu'il y a eu manquement à l'éthique, probablement de la magouille dans des contrats, bref, des dépenses qui ne tiennent pas la route. Et je vous demande, parce que ce n'est pas à moi de le faire, d'enquêter et de venir me dire si, oui ou non, il y a eu de la malversation, donc de la corruption dans le dossier de cette commission scolaire. Et on sait que la même commission scolaire poursuit le gouvernement, notamment au chapitre de la loi sur la laïcité. Alors, une belle bataille à venir. Il est 6h, presque 22. Autoroute des Laurentides.